c'est le moment en fait de votre billet sur la radiographie du coronavirus et vous allez nous parler de la quête du patient zéro.
Oui, c'est évidemment très séduisant, Guillaume, l'idée de faire remonter une épidémie à la toute première infection, la personne de qui tout serait parti, un peu à la manière dont le racontent d'ailleurs de très nombreux films ou romans de pandémie, qui font remonter le début de la première contamination à une seule et unique personne, ce qui est sans doute très séduisant donc, mais vraisemblablement assez éloigné de la réalité. Il faut distinguer deux choses, le patient zéro absolu, qui serait le tout premier cas humain avéré à l'origine d'une maladie, et le patient zéro relatif ou local, à savoir la première entrée de la maladie sur un territoire donné. Dans un cas comme dans l'autre, vous allez voir que c'est assez compliqué et certainement pas tout à fait juste de penser la propagation épidémique de façon aussi ciblée. En Chine, les médias ont désigné dans un premier temps une vendeuse du poisson du marché de Wuhan qui a développé les premiers signes de Covid dès le 10 décembre avant d'être hospitalisée le 16. Cinq jours plus tard, le 21 décembre, 3 douzaines de cas étaient signalés. Pour autant, une étude publiée dans The Lancet indique que le premier cas confirmé de Covid remonterait au 1er décembre chez un homme âgé souffrant de la maladie d'Alzheimer. Or, on voit bien la difficulté de chercher à isoler la première personne touchée. Non seulement il est très vraisemblable que le virus soit passé à plusieurs reprises de l'animal à l'homme avant de se fixer et de débuter des chaînes de contamination, et par ailleurs, la recherche du premier malade laisse totalement de côté les personnes asymptomatiques ou post-symptomatiques qui ont certainement joué un rôle dans la dispersion initiale du virus. Des études phylodynamiques, c'est-à-dire qui analysent l'histoire phylogénétique du virus et de ses diverses mutations, permettent de dessiner un arbre de propagation en fonction des différents isolats, et donc de remonter le temps jusqu'à ce qui serait l'apparition probable du virus, un peu si vous voulez à la manière d'un film dont il manquerait les toutes premières images, mais dont on pourrait supposer le début grâce à de très grands nombres de clichés de la fin. On remonte le film, si vous voulez, en arrière, et on infère ce qu'il se passait au tout début. En utilisant cette technique d'horodatage génétique, une équipe de l'Imperial College de Londres fait remonter l'ancêtre commun du virus au 5 décembre, avec une marge d'incertitude qui varie entre le 6 novembre et le 13 décembre. Une autre modélisation d'un chercheur de l'Université d'Édimbourg envisage une arrivée chez l'homme entre le 27 août et le 19 décembre, avec une plus forte probabilité autour du 17 novembre, soit bien avant les premiers diagnostics officiels de la maladie.
L'étude récente fait remonter le premier cas un mois avant l'annonce officielle des premiers malades.
Oui, officiellement en France, les 3 premiers cas de contamination ont été recensés le 24 janvier, 1 à Bordeaux et 2 à Paris, de 3 personnes qui avaient séjourné à Wuhan. Mais un article récent qui a été publié le 3 mai dans l'International Journal of Antimicrobial Agents a identifié un cas d'infection dès le 27 décembre à Bondy. C'est l'équipe d'Yves Cohen, qui est chef de service de la réanimation à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, qui est à l'origine de cette étude. Nous l'avons contacté. Le point de départ de cette recherche est la supposition que la maladie circulait en Chine avant les premiers cas officiellement recensés début décembre. Yves Cohen a donc analysé rétrospectivement les cas de pneumonie suspects dès le 2 décembre. Ils ont retesté PCR plusieurs patients et un cas s'est révélé positif. Il s'agit d'un homme de 42 ans qui a été brièvement hospitalisé suite à une toux teintée de sang et de maux de tête. Les scanners montrent bien des lésions pulmonaires très caractéristiques de la Covid avec un aspect dit de vert dépoli. Cet homme a transmis la maladie à ses 2 enfants, mais pas à son épouse. Néanmoins, il n'est pas évident que cela soit le patient zéro français, notamment parce que les recherches phylodynamiques montrent que si une variante particulière du virus est très largement représentée sur le territoire français, on appelle ça le clade G, il existe entre les différentes souches des différences suffisamment marquées pour penser que ce clade a été nourri par plusieurs variants introduits progressivement. Il y aurait donc, une fois de plus, pas un patient, mais des patients zéro qui ont contribué à la propagation du virus sur notre territoire. Ces recherches nous disent plusieurs choses. Tout d'abord, que c'est peut-être le plus important, que si le virus est bien apparu plus tôt en France comme dans d'autres pays qui font le même constat, les États-Unis, l'Italie et j'en passe, eh bien cela conduit à revoir à la baisse les modèles de propagation et de contagiosité. En effet, si le virus est là depuis plus longtemps, c'est donc qu'il se diffuse moins rapidement que ce que laissent penser les modèles qui se basent sur des dates ultérieures. Ensuite, pour tordre un peu plus le coup au mythe du patient zéro, que dans les tout premiers temps de circulation d'un pathogène, à l'inverse de l'image de la contagion qui serait immédiatement exponentielle, quand très peu de gens sont infectés, le hasard joue un très grand rôle et les extinctions spontanées de l'épidémie ou des bras de circulation du virus sont certainement assez courantes.